BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts, l'émission qui vous aide à vous rendre l'économie plus claire, je l'espère. Et on va parler fonds vautours après la publication de ce rapport. C'était il y a quelques jours. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans l'émission. Ce rapport publié par Aurélie Trouvé, présidente LFI de la Commission des affaires économiques sur les fonds vautours. Alors évidemment, ils promettent de redresser des entreprises en difficulté et de l'autre côté, certains repartent parfois avec la trésorerie, les actifs et les aides publiques. C'est ce que dénonce le rapport de l'Assemblée nationale. Vous êtes un professionnel du private equity, Bertrand Rambaud. Qu'en pensez-vous ?
Fonds vautours, déjà dans le titre.
Déjà dans le titre, ça donne un peu la coloration politique.
Ça donne la coloration. Bon, c'est un rapport.
Est-ce que ça existe ? On peut commencer par une question toute bête.
Enfin, mais bien sûr que ça existe. Tout existe. Dans toute industrie, il y a des gens qui se comportent pas bien. Mais après, il y a le particulier, puis il y a le général. Ce rapport, sans en parler trop, mais il est à charge, péremptoire, démagogique, dogmatique, enfin je pourrais lister beaucoup de mots. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que vous savez qu'il y a un rapporteur qui est cette personne, puis il y a un président de la commission.
Oui. Qui lui-même a pris ses distances.
Qui lui-même a beaucoup pris ses distances. Il a dit parfois il y a des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc dans ce rapport, on a parlé que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, il y en a. Et vous savez, moi je l'ai lu bien sûr, et puis je suis allé regarder aussi quelques interviews au cours de cette commission d'enquête. France Invest, BPI France, oui, qui ont donné des éléments factuels sur ce marché. Rien n'a été repris. Rien n'a été repris. Et uniquement les histoires où ça s'est pas bien passé. Bon, et je crois que, je trouve, moi, c'est choquant parce que c'est une élue de la République et je pense que quand on est élu de la République, on a quand même un devoir d'avoir une honnêteté intellectuelle par rapport aux informations qui vous remontent. En tout cas, c'est mon humble avis. Et je pense qu'il faut toujours revenir sur les faits. Parce que, vous savez, dans ce rapport, il y a à la fois il y a deux grandes parties. Il y a une partie sur les fonds qui rachètent des entreprises en difficulté et puis il y a une partie sur les LBO, les opérations de transmission.
Très décrié fut un temps les LBO.
Mais est très décrié.
L'achat d'entreprises par endettement, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui paye le crédit avec lequel on l'a racheté, grosso modo, et qui parfois tendance à serrer un peu.
Moi, je reviens toujours aux faits dans ce genre de situation et je dis souvent les chiffres sont têtus. Je regarde juste les chiffres.
Oui.
Les chiffres en France, le private equity, et on en parlait tout à l'heure avec UK, en France, c'est 8 000 entreprises, c'est 2,5 millions d'emplois. Quand je regarde sur la période 2019-2024, combien d'emplois créés ? Plus de 300 000.
300 000 emplois créés par Private Equity en 5 ans.
Sur cette période. Je regarde le nombre d'opérations de LBO. Par an, il y en a à peu près un peu plus de 700 en France. Les accidents, 5%. Donc 95% de succès. Puis je suis allé voir chez moi, dans mon groupe, sur 10 ans, dans les opérations de LBO, si j'avais eu des liquidations judiciaires. En 10 ans, j'en ai pas eu une. Alors je dis pas que tout a été exceptionnel, parce qu'on a eu des parcours parfois chahutés, parce que c'est la vie économique.
Oui.
Mais voilà, donc il faut juste rappeler ça. Alors après, bien sûr, il y a parfois des opérations qui peuvent être mises en place avec des effets de dette, ce qu'on appelle levier, qui peuvent être excessifs par rapport à des modèles économiques qui ont leurs histoires. Ça, évidemment, ça c'est la vie de l'entreprise. Et je rappelle, vous savez, quand le métier du capital investissement a été créé, ça s'appelait capital risque.
Oui.
Voilà, juste risque. Donc dans capital, il y a risque. Et si on prend un peu de la hauteur, à quoi servent ces opérations dites de LBO ou de transmission ? Le gouvernement, très récemment, et il a eu raison, a mis en exergue cet enjeu de transmission des entreprises. Moi, j'en entends parler depuis 30 ans que je fais ce métier. Mais là, ça ne fait que s'accroître. Le LBO est un des moyens pour permettre à des entreprises de se transmettre avec des managers qui rachètent la société,
oui,
aux côtés de fonds d'investissement, qui associent des salariés, qui associent des dirigeants, qui mettent des dirigeants en capital. Et je peux vous en raconter plein d'histoires où on a pu assurer des transmissions, garder l'indépendance de ces entreprises, les conserver sur le territoire français. Et je m'inscris en faux, mais totalement en faux, sur l'absence d'investissement de ces entreprises. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner de sociétés qui, je dirais, ont continué à croître, continuent à investir. Et quelque part, et je dis souvent qu'une société qui a un investisseur à son capital a un taux de croissance double de celle qui n'a pas eu accès à un investisseur, parce que ça apporte de l'argent, mais autre chose.
Frédéric Farah, elle a fait de la politique, là, Aurélie Trouvé, point barre, sans s'arrêter sur les chiffres et la réalité des faits que vient de décrire
Bertrand. Je pense que la politique n'est jamais loin, alors je vais répondre, mais je vous soumets une citation, vous devez me trouver l'auteur, d'accord? Alors, pendant plusieurs décennies, on a créé les conditions dans lesquelles l'industrie se trouvait soumise à la logique de la rentabilité financière à court terme. Qui a dit ça?
Il y en avoir beaucoup.
François Hollande.
Non, eh bien, discours de Toulon, 22 septembre 2008, Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy, effectivement.
C'est amusant.
N'était pas le moindre des politiques non plus.
Voilà, mais je dis ça parce que, bon, l'instrumentalisation, l'utilisation de la réalité économique dans le discours politique n'est pas que le fait de la France insoumise. Même
on est bien d'accord.
Un ancien président de la République lui-même le disait dans le discours de Toulon. Je suis tombé là-dessus en travaillant l'émission. Bon. Alors, plusieurs choses à ce sujet. Un, évidemment, tous les rapports parlementaires font toujours l'objet d'une certaine méfiance. Récemment, sur l'audiovisuel, on a dit...
Absolument, très politique aussi.
Il était très politique, est-ce qu'il n'était pas en train de régler ses comptes avec qui on ne sait quoi? Même chose pour Mme Trouvé, est-ce qu'elle n'est pas en train de faire de la politique? Alors, c'est toujours un peu embêtant parce que...
Mais sur le fond.
Sur le fond. Je pense qu'il y a une question qui se pose et qui est et qu'on peut aborder sereinement, qui est de savoir quel est l'impact positif et négatif dans certains cas de la financiarisation de nos économies. Voilà, c'est-à-dire tout simplement sans fâcher personne. Est-ce que ça apporte les financements nécessaires dont les entreprises ont besoin? Bah, très bien, circuler, rien à voir. Dans d'autres cas, il y a, vous savez, ce qui avait agité la, alors c'est un autre registre, le buyback récemment en disant, bah, ils rachètent leurs actions, les entreprises, oui, etc. Donc,
est-ce que de ça... l'argent gaspillé?
Voilà, etc. Donc, si vous voulez, je pense que, pour éviter la controverse, il y a cette question qui se pose, qui est de savoir, est-ce que les véhicules financiers, les instruments financiers, il n'y a-t-il pas des dérives, oui ou non? Et est-ce que la financiarisation, avec ses excès, doit-elle être intégrée dans notre raisonnement pour se poser la question, est-ce que c'est un problème ou une solution pour l'économie française?
Est-ce que c'est positif ou négatif?
Négatif, voilà.
L'intégrer, voilà. C'est un état de fait.
Un état de fait.
Sorte.
Mais c'est un élément important. C'est dommage parce que je l'ai lu le rapport, j'ai pas fini de pioter, c'est quand même deux tomes, hein, je veux dire, je suis déjà au premier, parce que c'est important de lire la littérature institutionnelle. Il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres, on voit bien, effectivement, il y a une intention, je suis d'accord avec vous, politique. Mais, dans le fond, je pense que cette question de la finance et de son rôle par rapport à l'économie, avec la banque aussi, les réglementations du comité de Bâle ou autre, oui, mérite d'être posée, c'est tout. Mais après, je refuse la controverse gratuite.
Bon, on a droit d'avoir un avis, Frédéric.
Oui, mais parce que si vous voulez, l'économie devrait inciter à la raison et souvent ça dérive dans des passions excessives.
Ah ben, c'est tout l'intérêt de cette émission qui souhaite ancrer dans le réel des discours politiques parfois très passionnés. Effectivement, Valérie Pagnol, qu'avez-vous pensé du rapport d'Aurélie Trouvé?
Très brièvement, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Il est clair que d'un côté comme de l'autre, les rapports trop partisans ne servent pas l'objectif qu'ils ont.
Oui.
C'est évident.
Ne permet pas d'éclairer.
Ils ne permettent pas d'éclairer.
Honnêtement.
Le point de vue de l'épargnant, c'est que on cherche des véhicules d'investissement. Il n'y en a pas assez en France. Et tout ce qui peut permettre d'investir et de développer avec de l'épargne française des investissements et des entreprises en France me paraît tout à fait préférable. Et
on
c'est
parlait
vrai.
De Pierre et Vacances pendant la coupure pub qui vient d'être acheté par le fonds.
Voilà. Moi, je préférerais que, effectivement, plutôt que les incantations autour du fléchage de l'épargne, qu'on puisse permettre, effectivement, dans la liberté d'entreprendre, aussi de diriger ça. Il y a un troisième point qui me paraît quand même difficile, c'est cette volonté quand même d'administrer l'économie. Et surtout, alors là, je m'inscris un tout petit peu en faux avec vous, parce que nous l'avons vécu dans les crises précédentes, il ne faut pas ignorer ou séparer la finance de l'économie. Ce sont deux éléments constitutifs de ce monde qui est le nôtre. Et pour avoir ignoré la finance, on a aussi laissé dériver les crises, mais on va en reparler assez vite, je pense.
Oui, exactement, Bertrand.
Non, mais si vous voulez, qui aujourd'hui, en France et en Europe d'ailleurs, va financer les start-up, les PME, les ETI? Qui? Le marché coté, indispensable, des familles qui sont présentes, et l'industrie dans laquelle je suis, le private equity. Donc, à quoi ça sert d'aller verser l'eau chaude comme cela a été fait sur ce métier qui a sa place. 50 milliards d'euros qui se déversent chaque année dans l'économie française à travers les actifs privés, c'est une réalité. Et c'est aujourd'hui devenu un acteur incontournable du financement. On parlait tout à l'heure de l'attractivité de notre pays. C'est une réalité, c'est vrai. Moi, ce qui m'impressionne, et ça on le dit pas assez, et je vais être vraiment dans le verre à moitié plein, c'est cette dimension entrepreneuriale qu'il y a dans ce pays. En matière d'innovation, il y a deux pays en Europe qui tirent. C'est la France et l'Allemagne. Deux pays en matière de tech. Il faut quand même reconnaître que sous Macron, beaucoup de choses ont été faites. Vous avez vu le succès de Vivatech la semaine dernière. Voilà, c'est une initiative purement française. C'est absolument exceptionnel. Toutes ces startups qui sont là, comment elles font pour se financer?
Et comment elles font pour grandir?
Comment elles font? On a parlé tout à l'heure de
leur... C'est le grand problème. C'est-à-dire qu'on arrive à les financer au moment du seeding, mais que dès qu'elles doivent grandir, elles partent malheureusement
à l'étranger. Et on parlait tout à l'heure, on n'a pas évoqué effectivement l'union des marchés de capitaux. Il y a un vrai sujet de l'épargne. On dit, tiens, l'épargne française, elle part financer les sociétés aux États-Unis. À un moment, il faut juste qu'on soit un tout petit peu rationnel avec ce qu'on veut faire. Donc, il faut attirer cette épargne, mais lui donner envie de s'investir ici. Et ça peut se faire à travers le côté, ça peut se faire à travers le non-côté, pour aider à développer ces sociétés familiales. Et il y a une envie de faire ça. Voilà. Et donc, je pense que c'est que le débat existe, c'est très bien, qu'il y a eu des excès, c'est une réalité. Voilà. Après, il faut juste revenir à l'essentiel. Et franchement, vous savez, dans ce pays, il y a des choses qui marchent bien quand même.
Oui.
Et l'industrie du capital investissement française, elle marche bien. Elle est performante. Elle existe, elle apporte une vraie création de valeur.
Mais juste une chose. Par rapport à la première question, est-ce que ça va bien, ça va mal, on décroche. On a un pays qui, je pense que vous le confirmerez. Je veux dire, on ne manque pas d'épargne chez nous. Hein, je veux dire, on n'en manque pas d'épargne. Donc ça veut dire, si on ne manque pas d'épargne, ça veut dire très concrètement, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Et si cette épargne n'est pas pleinement employée, on vit en dessous de nos moyens.
On vit quand même au-dessus de nos moyens, mais c'est l'État qui vit au-dessus de ses moyens.
Mais c'est-à-dire que quand même...
On a plus de 50 ans de déficit derrière nous. Voilà.
Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est quand même nos épargnes, l'épargne américaine, bof, hein, je veux dire. C'est clair. Donc, mais le problème, et ça fait plus des années 90 à nos jours, l'épargne européenne finance la croissance des autres. Voilà
en partie,
le
problème. Oui, les drames. Et puis beaucoup de dettes, peut-être plus que d'equity aussi, et de fonds propres des entreprises. Allez, il est 9h passé de 13 minutes, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts, et on va passer au dernier thème, on va continuer à parler marché. Un grand homme des marchés, Alan Greenspan, le président de la Fed, ancien président de la Réserve fédérale américaine, est décédé hier à l'âge de 100 ans. Et une question ce matin, Valérie Pagnol. Est-ce que c'était un génie des marchés ou est-ce que ça a été le père de la crise financière de 2008?
J'aurais envie de dire ni l'un ni l'autre. J'ai une certaine admiration personnelle pour l'homme et puis c'est un homme de son siècle.
Ça a été l'oracle pendant près de 20 ans.
Ça a été l'oracle et il a été porté au nu comme il a été déconsidéré. Mais je voudrais revenir sur 2-3 points. Alors de sa biographie personnelle, c'est le fils d'un agent de change. Il est né en 1926, c'est-à-dire que c'est un enfant aussi de la crise de 29. Il n'a jamais eu de doctorat en économie, mais il a suivi l'économie et la montée en puissance de l'observation de l'économie. Par la statistique tout au long des années 50-60. C'est plutôt un homme proche des républicains, mais qui a certainement connu son heure de gloire avec les présidents démocrates dans les années 90, qui est quand même la plus grande période, la plus longue période de croissance des États-Unis, la fameuse grande modération. Et c'est vrai qu'il a quand même, je crois, changé un certain nombre de choses. C'est aussi l'héritier d'une situation économique qui avait été en partie redressée, mais durement par Paul Volcker, quand il est arrivé à la tête de la Fed. Il a géré et plus géré des crises financières, c'est vrai. Je pense qu'il
a
beaucoup changé.
Il a traversé quand même le krach de 87, la crise asiatique.
Il est arrivé à ce moment-là.
L'effondrement de LTCM, le fonds, l'éclatement de la bulle Internet.
Absolument.
Tout connu. Incroyable.
Il a été quand même un des hommes, je crois, sur lequel on a le plus écrit en tant que banquier central.
Oui.
Y compris le fameux livre Woodward, Le Maestro, qui a probablement été excessif dans l'apologie du personnage. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est l'héritage quand même de la Fed, du fonctionnement de la Banque centrale et sa capacité à avoir accompagné quand même ce qui n'était pas de son fait, mais de celui du législateur, c'est-à-dire la déréglementation, l'ouverture des marchés.
Oui.
Et ça, il l'a complètement accompagné. J'ajouterai quand même un mot, LTCM, il l'a formidablement géré. C'est-à-dire que l'autorité de la Fed, qui en un week-end a réuni l'ensemble des banques pour éviter cette crise a été un moment fort. Mais c'est vrai aussi que cette croyance dans l'auto-régulation des marchés lui a coûté cher.
Oui, ça lui a coûté cher.
Ça a été quand même l'injection de liquidité absolument massive qui ont un peu lancé les prémices de la crise de 2008, diront certains.
Oui, mais
l'autorégulation qui fait que les subprimes, plus personne n'y comprenait rien, mais que tout le monde s'est gavé pour parler vulgairement pendant des années et que ça nous a pété à la figure.
Tout à fait, là-dessus, c'est à mettre dans la partie passive du bilan. Mais l'homme était lucide. Car, je rappelle, lors de l'audition au Congrès, le 23 octobre 2008, face à M. Waxman, qui lui pose la question que... Alors je traduis, j'ai ça sous les yeux en anglais, qui lui dit, dans d'autres mots, vous pensez que votre vision du monde, votre idéologie n'était pas juste, elle ne marchait pas. La réponse de Greenspan, absolument. Donc, et précisément...
Il a fait son mea culpa.
Il fait son mea culpa en direct devant Waxman, le 23 octobre 2008 au Congrès, qui l'interpelle.
C'est
honnêteté, parce qu'il aurait pu, par des manœuvres dilatoires de discours, dire non. Mais à la question que Waxman lui pose, il répond, mais sans même hésiter, que oui, il reconnaît qu'il s'est trompé. Donc, effectivement, et d'ailleurs, sur cette dérégulation, il y a eu tout le débat lorsque l'on s'est séparé, à l'époque clintonienne, de ce qui avait été un pilier de l'organisation financière américaine, qui était le fameux Glass-Steagall Act.
Oui. De séparation des activités bancaires entre la banque et le marché.
Et en 99, cette chose est abandonnée.
Réseau commercial.
C'est pas lui qui est à l'origine de cet abandon, parce que il faut pas dire. Mais disons que sa réflexion, sa pensée, etc., ont eu, des conséquences lorsqu'il y a eu cette loi de 99 qui a été porté par les démocrates. Et là, c'est amusant, c'est amusant parce que là où parfois la dynamique de la finance se fait le plus, c'est pas dans les camps auxquels on pense. C'est les démocrates, ils sont pas des républicains, moins que Clinton, c'en était un autre. Et je rappelle qui a aussi organisé la place de Paris pour que la finance soit possible, c'est la loi de 84, c'est organisé par les socialistes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être attentif à ces jeux d'histoire où finalement on pourrait dire, 84, c'était la droite. Non, c'était la gauche. 99, c'était les républicains. Non, c'était les démocrates. Donc, attention à des frontières très mouvantes et de voir que c'est pour cela que beaucoup de raisons font du bien.
Est-ce qu'il a déresponsabilisé les marchés, Alan Greenspan, en injectant à chaque fois plus de fonds de la Fed? Ça a été le grand sujet de 2007 au moment de la faillite de Lehman. Est-ce qu'il faut rétablir l'aléa moral? C'est ce qui a dicté la décision du Trésor américain à l'époque avec les conséquences funestes que l'on a connues. Est-ce que c'est lui qui a un peu aidé à...
Je trouve que c'est toujours... bon, d'abord, moi, je souligne quand même la longévité de l'homme à la tête de cette organisation. Enfin, c'est 20 ans. C'est un parcours incroyable. Puis c'est toujours facile et difficile d'aller juger par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Une action qui s'est éteinte il y a 20 ans d'un homme qui est peut-être allé un peu trop loin sur
facile de réécrire l'histoire, effectivement.
Ouais, et
dire
et
après
sur tous les sujets par nature et ceux-là qui sont tellement sensibles. En revanche, effectivement, je trouve que si on regarde un peu avec l'actualité du jour, ça pose une vraie question sur les régulations. On est en Europe et on subit tous les jours une surrégulation européenne, enfin je parle dans le domaine financier, surrégulation, une limite des banques à investir, les ratios, Bâle, etc. Et puis, on a l'inverse de l'autre côté de l'Atlantique, où là où on a une dérégulation, et on a vu ce qui s'est passé évidemment sur les subprimes. On voit aussi ce qui se passe un peu sur les fonds de dette privés. On a déjà parlé autour de ce plateau. Et je crois que il y a une vraie question pour nous tous sur le juste milieu à trouver en matière de régulation. Et pour moi, je dirais ce décès à 100 ans de cette personne m'interpelle par rapport à ça, parce que je crois qu'il y a une culture fondamentale, et au-delà de Greenspan, aux États-Unis, qui est dans leur gène sur cette immense liberté et ces côtés très régulateurs, et qui est un vrai frein pour nous. On a parlé tout à l'heure de financement, on a parlé d'accès au capital, mais on en subit les conséquences en Europe aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut lui donner un hommage par rapport à tout ce qu'il a fait, ben je crois qu'il faut qu'on regarde ça avec une grande objectivité.
Oui. Valérie, puis Frédéric Farin.
Oui, alors il faut rappeler quand même, et c'est vrai qu'il est intervenu un peu tard, mais je revoyais le mouvement des taux de la Fed. Il a laissé à Ben Bernanke une position où il avait remonté, il commençait à remonter les taux. Donc la réserve fédérale
comment très graphique,
est aussi un moment. Alors il y a plusieurs graphiques, mais celui orange de la réserve fédérale montre qu'effectivement, à partir de 2005-2006, on a commencé à remonter les taux directeurs. C'était probablement trop tard, et ça a montré aussi les limites effectivement d'un régulateur et d'un superviseur, d'une banque centrale, quelle qu'elle soit, par rapport à un système financier qui a commencé à lui échapper, et un système bancaire. Parce que toute l'histoire de la Fed, et il en était l'héritier, c'est cette relation extrêmement difficile avec un système bancaire et un système politique américain, historiquement, anti-fédéral. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le risque. C'est les petites banques qui font faillite, mais c'est pas grave. Ça a toujours été cette situation. Et c'est vrai qu'il a été probablement aussi, par héritage, plus sensible à la déflation qu'à l'inflation. Même s'il a vécu quand même la période des années 60. Et là aussi, il a bien travaillé avec des démocrates, alors même qu'il a critiqué les démocrates dans les années 60 et il était proche des républicains. C'est beaucoup de pragmatisme, c'est aussi des erreurs, c'est évident, mais c'est aussi la limite du pouvoir d'une banque centrale. Moi, je suis très étonnée, je voudrais revenir au présent. Aujourd'hui, les marchés n'ont de cesse que d'observer et d'attendre une décision de la Fed, dont ils connaissent d'ailleurs en général le résultat, et de ne fixer que ce point-là. C'est quand même peu par rapport à l'évolution de l'ensemble de l'économie.
Frédéric Farah.
Plusieurs choses. Je crois que cet homme a illustré ce que dit la jolie formule de l'économiste Pierre-Noël Giraud, les moyens chamaniques de la politique monétaire. C'est-à-dire ce que Pierre-Noël Giraud disait, c'est-à-dire ce qui est le plus important aussi, c'est pas simplement manipuler des taux, mais c'est la communication.
Ben oui. On dit. Et Greenspan disait, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé.
Voilà. Et il disait, et dans son traité sur la finance, Pierre-Noël Giraud dit, les moyens chamaniques. Je trouve que cette formule est assez heureuse. Et deuxièmement, il y a un truc qui devrait nous interroger. Alors, qui associe Greenspan, mais qui va au-delà de lui. Il y a quelque chose qui s'est interrompu. Tous les 7 ans, on avait droit à une grande crise. 87, 94, 2001, 2008. Ça fait 7. Depuis, doit-on dire que les banques centrales, par leurs actions ou autres, ont fait que, depuis 2008, de crises de ces ampleurs qu'il y avait tous les 7 ans, ont disparu du secteur. Est-ce que ça va revenir sous une forme plus brutale ou autre ? La question des banques centrales est essentielle dans cette histoire. Et par rapport à ce que vous disiez sur les traditions américaines, c'est passionnant, mais absolument passionnant quand on se plonge dans l'histoire économique, les rapports qu'ont les banquiers centraux aussi avec le pouvoir politique américain sur les termes de leur mandat, c'est ce qu'ils doivent faire.
Ah, parce que c'est la bataille de l'indépendance. Hein,
voilà, c'est la bataille de l'indépendance
aujourd'hui. Hein, mais Donald Trump.
Si on devait comparer deux banquiers centraux qui ont joué un rôle essentiel, Alan Greenspan évidemment, qui a été au cœur de ce mouvement de dérégulation de l'activité économique, et il y avait un peu son contraire de quelqu'un qui est resté aussi longtemps à la Banque centrale, qui était Mariner Eccles. Mariner Eccles, qui était le gouverneur de la Banque centrale américaine dans les années Roosevelt jusqu'en 51, qui lui a été l'apôtre du deuxième New Deal américain pour encourager au contraire que l'État dépense plus, soutienne pour l'activité. Et il y a cette espèce de pendant de deux histoires. Et Mariner Eccles, qui est aussi un personnage incroyable sur lequel j'ai travaillé, etc. Et Greenspan, c'était deux mondes différents. C'est pour ça que si on veut avoir un regard sur l'économie américaine, son histoire, regarder les rapports entre le fédéral et la Federal Reserve, c'est passionnant.
Et où est-ce que se place Kevin Warsh ?
Ça, c'est intéressant.
Mais oui, évidemment, Kevin Warsh se retrouve dans une situation où on va voir quelle va être sa capacité d'indépendance, surtout que M. Trump, vis-à-vis de la Banque centrale, traite mal ces gens-là. Il faut voir comment Jay Powell a pris dans la figure, quand même, pas rien hein, de la part. Et je trouve le calme olympien de M. Powell, qui avait été nommé par Trump lui-même, c'est absolument. Ça qui est fou.
Un dernier mot très rapide, Valérie Plagnol.
Deux choses. D'abord, Jay Powell, effectivement, et comme le disait aussi Alan Greenspan, la Fed est l'objet du Congrès. C'est-à-dire que le témoignage et le testimony devant les chambres du Congrès étaient plus importants et il s'en est tenu là. Et la Chambre des finances du Congrès l'a soutenu d'ailleurs face à Trump. Ça, c'est important. Sur la communication, on sent que Warsh veut revenir un petit peu en arrière par rapport à une poussée de communication qui avait même été institutionnalisée avec les fameuses conférences de presse. Je vous rappelle quand même d'ailleurs, la BCE en avait l'antériorité.
Ça t'y dit.
Oui.
Ouais.
Voilà.
Et merci. Juste pas. Merci. Non, on va falloir qu'on rende l'antenne là. Désolé. Ah. Merci à tous les trois. Désolé de vous couper. Cher Frédéric, merci Bertrand Rambaud, Frédéric Farah, Valérie Pernet pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay.